Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il n'y a pas de spectateurs innocents, de spectateurs vierges, de spectateurs nés ex nihilo. Il n'y a pas de spectateurs en soi, de spectateurs par nature ou par essence. Être spectateur, c'est se construire soi-même tout en prenant place dans un flux qui nous a précédés. Être spectateur, c'est devenir spectateur. Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre « Spectateur d'une saison au théâtre ». Encyclopédie en mouvement d'un art qui ne serait rien sans spectateur. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue. Bonjour Christian Ruby.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, formateur de médiateurs culturels, auteur de nombreux ouvrages, dont celui qui va nous guider aujourd'hui, « Devenir spectateur », sous-titré « Invention et mutation du public culturel », publié aux éditions de La Tribu. Dans ce livre passionnant, nourri de multiples lectures d'écrivains, de théoriciens, de philosophes, vous opérez une mise à jour très éclairante du statut du spectateur à travers les siècles et vous démontrez de quelle manière ce qu'on pensait être une nature acquise n'est en rien une évidence qui existerait de toute éternité. Le spectateur d'art est une construction sociologique, politique, artistique. Le spectateur devient, et Peter Handke, dans votre âge au public, ne disait déjà pas autre chose.
En parlant avec vous, nous vous rendons conscient de vous-même, comme c'est à vous que nous nous adressons. Vous devenez conscient de vous-même. Vous devenez conscient d'être assis. Vous devenez conscient d'être assis dans un théâtre. Vous devenez conscient de la position de vos jambes et de vos bras. Vous devenez conscient de vos doigts. Vous devenez conscient de votre langue. Vous devenez conscient de votre gosier. Vous devenez conscient de votre tête. Vous devenez conscient de vos organes. Vous devenez conscient du battement de vos paupières. Vous devenez conscient de vos déglutitions. Vous devenez conscient de vos salivations. Vous devenez conscient des battements de votre cœur. Vous devenez conscient de la manière dont vous relevez les sourcils. Vous devenez même conscient du picotement de votre cuir chevelu. Vous devenez conscient de vos démangeaisons. Vous devenez conscient de la sueur sous vos aisselles. Vous devenez conscient de vos mains moites. Vous devenez conscient de vos mains sèches. Vous devenez conscient de votre haleine. Vous devenez conscient de la manière dont nos paroles frappent vos oreilles. Vous devenez présent d'esprit.
Voilà, la conscientisation du spectateur, Christian Ruby, c'est complètement votre sujet, le sujet de votre livre. Je voudrais démarrer par une première question un peu vaste, mais qui va mettre un peu les pendules à l'heure. Qu'en est la notion de spectateur, et notamment cette notion de spectateur d'art ?
Alors merci d'abord pour ce très beau texte de Peter Handke, parce qu'il est exactement l'élément autour duquel votre question pivote. Parce que pour en arriver à poser la question du spectateur, il faut d'abord avoir arrêté peut-être tous ces discours qui portent d'abord sur l'œuvre d'art, sur les auteurs ou les acteurs, pour s'occuper de ce qui est corrélé à l'œuvre d'art, c'est-à-dire finalement le spectateur. Alors pour ce qui est de sa naissance, moi je travaille essentiellement sur la légitimation, c'est-à-dire les discours qui témoignent de ce que certaines personnes ont commencé à ressentir pour devenir spectateur, pour s'appeler spectateur. En fait, il y a trois phases. D'abord, je parle d'aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes plutôt en train de déconstruire, de défaire la notion de spectateur. Les pratiques artistiques que nous connaissons, que nous voyons, les installations, les performances, l'immersion, le multimédia, le multi-écran, etc., a tendance à défaire, déconstruire cette question du spectateur. Donc, mon idée, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui et d'essayer de comprendre pourquoi, avec quoi on rompt et pourquoi, finalement, on peut reconstruire cette notion de spectateur pour comprendre de quoi il s'agit. Ce qui nous remonte alors, premièrement, à l'émergence de l'art dit classique, si vous voulez, c'est-à-dire l'art de la perspective, la construction des théâtres renaissants et autres, ce moment où se construit un schéma pratique du spectateur, c'est-à-dire des attitudes sur lesquelles on ne produit pas du discours. Et la légitimation, c'est-à-dire le moment où on produit des discours, intervient à la charnière du 18e, 1709, c'est la première grande date si on veut, les textes comme les textes de Roger de Pils, les textes de l'abbé Dubos, c'est-à-dire des textes qui cette fois ne se contentent pas du schéma pratique, voilà comment nous nous comportons, voilà ce que nous pouvons décrire, mais qui théorise, et théorise cette question du spectateur dans le cadre d'une philosophie du sujet, et dans le cadre des premiers éléments d'une conscience démocratique, d'une perspective démocratique. C'est comme cela que ça s'articule, cette notion de spectateur.
Alors, dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, Christian Ruby, vous démontrez aussi une chose qui nous est décidément assez commune, c'est notre ethnocentrisme. Cet ethnocentrisme, il ne date pas d'aujourd'hui. À un moment donné, dans le livre, vous citez Marivaux, qui écrivait « Marivaux, autant en milieu européen familier se trouvent des spectateurs, autant on n'en trouve nulle trace parmi les orientaux. Quant aux, entre guillemets, sauvages et aux noirs, ils sont trop, là encore, entre guillemets, proches de la nature ou de la bestialité pour pouvoir jouir d'un quelconque spectacle artistique et devenir spectateur. » C'est notre Marivaux qui écrit ça, ce qui est quand même assez fou. Et on voit bien que l'ethnocentrisme amène bien évidemment au racisme. Mais ce que vous ajoutez aussi, Christian Ruby, c'est que la notion de spectateur en France n'est pas la même partout.
Exactement. C'est-à-dire que le regard que nous allons porter, nous, c'est-à-dire occidentaux, alors maintenant, comme vous l'avez fait, il faut mettre beaucoup de guillemets sur tout ce qu'on va énoncer, notre regard consistait à plaquer sur les autres, donc de façon ethnocentrique, l'idée que nous avons construit cette figure du spectateur, mais les autres sont encore tributaires de tout un art qui est l'art religieux, l'art de culte, etc., avec lequel, finalement, nous aussi, nous avons rompu. Et là, se construit une opération qui est un tout petit peu délicate, parce que quand on la parle, il faut toujours mettre effectivement des guillemets. C'est-à-dire que nous, occidentaux, nous avons jugé que les autres n'avaient aucune posture de spectateur et n'étaient pas des spectateurs par rapport à leur art, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'aient pas développé un certain nombre de pratiques que nous n'avons pas été capables de reconnaître. Et cette opération reconduit vers nous, finalement, la gloire d'avoir construit cette figure du spectateur. Et ça va durer très longtemps, puisque colonisation aidant, par exemple, en Inde, je me suis aperçu que l'introduction du cinéma par les Britanniques aux alentours de 1930 a obligé la culture indienne à se restructurer, puisque jusqu'alors le Ramayana, c'est-à-dire les grands textes fondateurs de l'hindouisme, interdisait justement une position de type spectatorial. Et l'introduction du cinéma fait que les Indiens vont se retrouver devant une difficulté culturelle, une difficulté. Par retour, c'est ce qui fait aussi que parfois nous sommes surpris quand nous sommes en Inde de l'attitude des Indiens à l'intérieur des cinémas. Parce que nous avons beaucoup de mal à comprendre comment ils ont restructuré toute leur culture autour de cette question du spectateur.
Mais quelle est l'attitude des Indiens à l'intérieur du cinéma, donc, Christian Ruby?
Alors, si spectateur veut dire, dans le contexte qu'on vient de décrire, distance avec le réel, si spectateur veut dire en même temps un certain nombre de gestes appris, si spectateur veut dire aussi inclusion dans des modèles éducatifs, il est clair que le Ramayana ne rend pas compte de cette distance, puisqu'on est dans le culte et donc ce qu'on voit sur la scène, à la limite on ne peut pas dire la scène, mais ce qu'on voit c'est ce dans quoi on est inscrit, ce dans quoi on est pris, toute la cosmologie fait qu'on est entièrement à l'intérieur d'eux, donc on n'a pas cette distance, on n'a pas non plus les gestes que nous avons fini par apprendre et qui ont éduqué notre corps, et on n'a pas non plus construit des modèles que nous transmettons par des écoles de spectateurs aujourd'hui, par exemple, ou par simplement des récits dans les romans d'attitude de spectateur, parce que nous avons beaucoup appris à nous tenir en spectateur à l'intérieur de nos lectures, voire de la musique. Ces moments où, pour en prendre une référence, Cervantes dans Don Quichotte explique comment Don Quichotte a du mal à prendre une position de spectateur par rapport au théâtre de Maître Pierre. Ce moment où, dans La Princesse de Clèves, la princesse regarde le portrait du duc de Nemours et donc se dit mais quelle distance je dois avoir par rapport au portrait, comment me tenir devant le portrait. Et ça se répète évidemment dans de très très nombreux romans. Et toute la culture indienne, comme aussi la culture chinoise, la langue ancienne, chinoise ancienne, n'a pas du tout de notion qui dise cette distance, ces gestes, la question de la représentation et autres.
Il serait injuste, Christian Ruby, d'avancer sur cette émission sans passer par les propos d'un philosophe sur qui vous êtes vous aussi beaucoup penché. Ce philosophe, il est devenu fondamental quand on veut aujourd'hui penser la question du spectateur. C'est bien évidemment Jacques Rancière. Je vous propose de l'écouter.
La question du spectateur, c'est une sorte, disons, de problème un petit peu récurrent pour les gens de théâtre, du moins ceux qui pensent que le théâtre doit, disons, faire quelque chose pour la communauté, pour l'éducation de la communauté, pour éventuellement la révolution sociale. Bon, tous ces gens-là ont toujours pensé que, disons, être spectateur, bon, c'était bien, puisqu'eux-mêmes proposaient des spectacles, mais qu'en même temps, c'était mal, puisque un spectateur, c'est quelqu'un qui regarde, et au lieu de, bêtement, au lieu de comprendre, qui regarde, donc, bêtement, au lieu de voir, bon, disait Brecht dans une formule célèbre, et surtout, c'est quelqu'un qui est inactif, alors que, bon, bah, bien sûr, ce qu'on cherche à former, ce sont des gens qui sont savants et actifs. Mmh. Bon, on a beaucoup parlé du fameux paradoxe du comédien de Diderot, mais le paradoxe du spectateur est encore, en un sens, beaucoup plus radical, puisque, bon, bah, le théâtre, la performance, bien sûr, vivent de deux spectateurs, et qu'en même temps, ils vivent sur la méfiance du spectateur, ou en tout cas, bon, ce qui n'est pas simplement, disons, un théâtre fait pour bon, le plaisir, simplement le plaisir des yeux et des oreilles. Le théâtre s'est toujours pensé un petit peu comme une espèce d'action un petit peu civique, et depuis le romantisme, voilà, ce modèle récurrent du théâtre grec comme un théâtre de la cité rassemblée, un théâtre politique. Très souvent, bon, on nous dit que le théâtre bon, est lié à la démocratie, comme l'école est liée à la République, des choses comme ça. Donc, bien sûr, il y a cette espèce de paradoxe, disons, d'hommes de théâtre qui veulent bon, transformer le théâtre, en quelque sorte, pour rendre le spectateur actif, le faire sortir de sa position. Et bon, c'est ce qui a été à la base un petit peu de toutes les tentatives d'un théâtre transformé, surtout entre les années 1910 et les années 1930, disons, entre les années de Meyerhold en Russie et puis les années de Piscator et de Brecht en Allemagne. Il y a eu cette espèce de volonté. Bon, on peut penser aussi, bien sûr, à Antonin Artaud ou à d'autres. Il y a eu cette volonté à l'époque de trouver une sorte de moyens, effectivement, pour briser la structure théâtrale classique, pour transformer plus ou moins la scène du théâtre en lieu d'un meeting, ou en une espèce de cérémonie initiatique, ou éventuellement en une sorte ou d'école ou de parlement.
Voilà, revenons donc en Occident, après ce passage que vous avez fait pour nous, Christian Ruby, en Chine et en Inde. Revenons en Occident avec celui qui fait aujourd'hui référence, hein, lorsqu'on s'attaque à la question du spectateur, Jacques Rancière, vous venez de l'entendre. Est-ce qu'il est pour vous aussi, comme il l'est pour beaucoup d'artistes aujourd'hui dans le monde du théâtre, un point de référence ?
Il est certainement celui qui a mis le doigt sur deux problèmes qui sont centraux. Le premier problème, c'est qu'on se trouve aujourd'hui devant beaucoup d'agitation autour du spectateur. Sur le thème, les spectateurs sont passifs, il faut les rendre actifs ou il faut réveiller les spectateurs, etc. Et là-dessus, je pense que Rancière a dit ce qu'il fallait dire. Et la deuxième chose qu'il relève, à juste titre aussi, c'est qu'il ne faut pas confondre une transformation sensible et une transformation du sensible. Alors, transformation sensible... Voilà, très simplement, si je prends les deux derniers mois de mes confrontations à des œuvres d'art, théâtre, art plastique et autres, je me suis aperçu que certaines œuvres sont placées à l'intérieur d'un musée, d'autres à l'extérieur du musée. Parfois, c'est dehors. Parfois, on nous invite à mettre des casques. Parfois, etc. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'on est en train de s'agiter simplement sous le prétexte qu'on aurait été endormi, nous, spectateurs. Et je pense que ça, c'est une erreur. Et qu'on confond une transformation sensible, c'est-à-dire simplement des gestes, des manières de faire et autres, avec une transformation du sensible, c'est-à-dire véritablement une transformation des rapports entre le disciple et le visible. Voilà. Et là-dessus, Rancière a mis le doigt sur une question essentielle. Si on veut parler du spectateur, d'abord il faut en parler en corrélation avec une œuvre. Regardez comment se construit justement ce moment du spectateur, comment on le devient, comment on ne l'était pas avant d'être corrélé à une œuvre, comment on se construit par rapport à l'œuvre, ou comment on se déconstruit, puisque toutes les œuvres spectateurs est plus adéquat à un art, disons, classique, perspectiviste classique, voire moderne, mais pas du tout à un art contemporain. Moi, mon intérêt, ça a été justement de partir de cette question de la contemporanéité, que je ne veux pas dénoncer, c'est-à-dire je ne veux pas tomber dans une sorte de discours crépusculaire sur la culture du temps, sur le mode « mon Dieu, c'est horrible », tout se défait, il n'y a plus de spectateurs, les spectateurs sont devenus passifs, mais pas du tout. En revanche, nous sommes devenus des, entre guillemets, spectateurs multiples. Nous sommes à la fois des spectateurs version ancienne quand nous voyons des œuvres très classique, par exemple. Nous sommes des activateurs lorsque nous sommes devant des œuvres, disons, aux vidéos ou avec qui travaillent sur des claviers informatiques et autres. Nous sommes des, peut-être, spect-acteurs dans un certain nombre d'autres cas. Nous sommes des déambulateurs dans d'autres cas. Et tout ça m'intéresse et je n'ai pas du tout envie de le dénoncer. Je veux bien en faire la critique à certains égards, puisque trop souvent, on prend comme prétexte la passivité du spectateur, mais je ne veux pas du tout me défaire de ces pratiques, de ce que proposent des artistes, de ce qu'ils sont capables d'inventer, parce que justement, ça me réinterroge, ça nous réinterroge, ça réinterroge notre devenir spectateur, notre conscience, comme vous le disiez tout à l'heure, notre éducation, et peut-être aussi les polices du spectateur telles que nous avons pu les vivre.
France Culture,
une saison au théâtre,
Joël Gaillot.
Je vous propose, Christian Rubis, de donner la parole aux artistes dans cette émission, et notamment à Pina Bausch, immense chorégraphe qui a travaillé, vous le savez, à une fusion de la danse et du théâtre sur les plateaux, un langage mêlé qui a rencontré un fort succès populaire, dépassant les clivages. C'est la raison de ce succès, mais cette raison, c'est peut-être aussi la manière dont Pina Bausch envisage son spectateur, qu'il explique. On l'écoute.
For me, it's very difficult to explain, because a part of my work is also that I think that the
images. Mais difficile d'expliquer parce que une partie de mon travail est précisément de penser que les images sur scène sont très ouvertes pour que tout le monde soit libre de croire en ce qu'il perçoit.
Tell you what I feel, or it's already like I would ask you to see what I want you to see.
Si je vous disais ce que je ressens, ce serait déjà vous demander de voir ce que je veux que vous y voyez.
The dances or whatsoever, and I think each one should trust their own feeling and what comes to your heart.
Il y a ce qu'il y a, des images, des danseurs. À chacun de croire dans ses propres perceptions ce qui vous vient à l'esprit, au cœur.
I don't want to tell you what to think or what to feel.
Je ne veux pas vous dire quoi penser, quoi ressentir. Pour moi, c'est très important, vous faites partie de la pièce d'une certaine manière.
Il y a ce mot qui revient, Christian Rubis, dans les mots de Pina Bausch, qui est ce mot de liberté. Vous êtes libre de penser ce que vous souhaitez penser. Ce mot de liberté, il me semble que dans votre livre, Devenir spectateur, il peut être parfois un peu remis en question. Est-ce que le spectateur est si libre que ça? Est-il si libre de sa propre histoire? Est-il si libre de ce que l'artiste opère sur lui, de ce que l'œuvre opère sur lui? Est-ce que cette liberté n'est pas, au fond, un peu une illusion, une utopie, voire un leurre ?
Alors, je pense que la réponse passe par une des phrases de Pina Bausch qu'on vient d'entendre, lorsqu'elle dit « vous faites partie de la pièce ». Ce que dit très très bien cette phrase, c'est que nous sommes dans l'art d'exposition depuis la Renaissance, c'est-à-dire un art d'adresse indéterminée à tous. Sauf que, cet art indéterminé à tous, on a fini par le modéliser, on a fini par le refermer, on a fini par croire que c'était le seul modèle possible, le seul modèle nécessaire, ce que va dénoncer Peter Handke, par lequel nous avons commencé. Et c'est constitué progressivement une police du spectateur dont la propriété est qu'elle nous a fait adhérer à un certain type d'œuvres qui parfois nous gênent pour voir des œuvres qui n'appartiendraient pas au même registre. D'où des querelles sur l'art contemporain. L'art contemporain, c'est nul, c'est rien, c'est etc. Enfin, les vieilles querelles des années 1990 et autres. Alors qu'en réalité, cette difficulté ne dénonce que notre éducation, la manière dont on a modélisé cette question du spectateur. Alors, elle est modélisée comment? Tout le monde a remarqué, par exemple, que dans les théâtres au 19e par exemple, on a vu apparaître des petites affiches disant ne pas cracher, ne pas faire ci, ne pas faire ça, etc. C'est bien d'éducation dont on parle d'une façon ou d'une autre. Tout le monde a remarqué, par exemple, chacun le sait, lorsqu'on prend un billet pour une pièce de théâtre, qu'on se rend au théâtre, on a sur le billet place 25 au rang 12, eh bien on se rend à la place 25 du rang 12 sans poser de problème par rapport à ses voisins, etc. Or, Alors imaginez que au 19e siècle, dans la plupart des théâtres, en tout cas dans les théâtres dont j'ai fouillé le règlement, dont j'ai analysé les règlements, on pouvait être condamné devant la justice pour n'avoir pas occupé la bonne place dans un théâtre. On pouvait se voir exposé en place publique parce que de la même manière, on a pris telle place qui était réservée en 19e encore à un aristocrate. Le règlement du théâtre de Naples est terrible pour ça. Le nombre de coups de bâton qui sont distribués à droite à gauche aux spectateurs qui avaient des chapeaux, qui empêchaient les autres de voir, qui n'étaient pas à la bonne place, qui se déplaçaient pendant le spectacle, etc. Le nombre de punitions au théâtre de Nantes dans le règlement au 19e siècle est colossal. Je ne vais pas les passer tous en revue, mais ça nous dit quelque chose sur la manière dont une éducation a été acquise, pourquoi pas, mais en même temps dont elle est devenue un modèle.
Oui, mais vous allez plus loin que l'éducation, Christian Hubie. À un moment donné, vous citez un philosophe et juriste, Jérémy Bentham, et c'est hallucinant ce qu'on lit. Vous expliquez que Jérémy Bentham considère l'art comme un système de dressage qui fait entrer le spectateur dans les protocoles de disciplinarisation sociale et psychologique de la société. C'est beaucoup plus qu'une éducation, c'est de la domestication, c'est de l'aliénation quasiment du spectateur par l'art à un moment donné.
C'est le développement du redressement du corps au travers de toutes les problématiques du 19e siècle et l'articulation à la construction d'une sociologie et d'une psychologie en plein cœur de l'ensemble de ces débats. Et il est vrai que un certain type de sociologie, un certain type de psychologie ont eu tendance à naturaliser le modèle de spectateur, qui était en fait le modèle des élites, et à chercher à l'imposer à tous. Et on est passé d'une éducation qui était souple, d'une éducation qui conduisait à la discussion, au débat, à une éducation qui finalement refermait les spectacles sur un modèle.
Mais est-ce qu'à un moment donné aussi dans l'histoire française, il n'y a pas eu une corrélation, une connexion entre le spectateur et le citoyen qui fait qu'au fond, le spectateur est devenu garant presque à lui tout seul de la bonne tenue de la démocratie. Vous parlez à un moment donné dans le livre de Condorcet, vous lui consacrez de longues lignes, et Condorcet, il dit que le spectateur avance main dans la main avec le citoyen. Dans l'histoire de la France, le spectateur à un moment donné a eu sur ses épaules la responsabilité quasiment de la nation.
Exactement.
Et ça fait partie de notre héritage, c'est dans notre ADN, Christian Hubie. Il reste des traces de ça en nous, je suppose.
Bien sûr, ce qui se développe à partir des notions d'exercice et de trajectoire. C'est-à-dire que ce devenir spectateur s'opère dans la corrélation avec une œuvre, ce sont des exercices, et dans des trajectoires, on n'était pas spectateur avant, on devient spectateur, on recommence à construire cette attitude de spectateur, on devient, etc. Mais en même temps, il est vrai, la perspective démocratique est inscrite à l'intérieur de ces réflexions. Sauf que il s'agit bien des élites, c'est-à-dire Condorcet, qui est démocrate, incontestablement, qui participe à la Révolution française, qui a défendu les femmes, qui a défendu les Noirs, puisqu'il était membre de la société anti-esclavagiste, etc., pense qu'il faut conjoindre un type de spectateur avec la citoyenneté, féminine comprise d'ailleurs, même si le mot spectateur au départ se construit au masculin et strictement au masculin. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on y inclue les spectatrices. Mais ce moment, c'est l'intelligence de la Révolution française. Mais en même temps, c'est le moment où on constate qu'il y a inadéquation entre ce modèle et la réalité. C'est-à-dire que les nouveaux spectateurs entrant sur scène, en quelque sorte, la scène des arts, avec la Révolution française, le monde ouvrier, ce qu'on appelle le peuple, ces nouveaux spectateurs réclament d'autres attitudes, réclament plus de souplesse, réclament une citoyenneté qui n'est pas forcément celle qui est strictement définie par les personnels majeurs de la Révolution française. Et c'est ce qui va déclencher une sorte de guerre dans laquelle va s'inscrire la police du spectateur, la police venant réguler ce genre de choses. Mais ça va donner aussi une sorte de divergence entre des spectacles plutôt, entre guillemets, élitistes et des spectacles plutôt populaires. Voilà. Et les deux choses vont se confronter en permanence. Je ne veux pas les opposer caricaturalement. Elles jouent l'une par rapport à l'autre et constamment et en particulier autour de cette philosophie du sujet et autour de la perspective démocratique. Quelle démocratie voulons-nous ? Finalement, toute œuvre d'art nous appelle à la double réflexion suivante : comment cette œuvre me fait-elle spectateur ? Et en même temps, comment est-ce que moi, j'accepte de répondre ou non à cette sollicitation. Et je peux le refuser, je peux l'accepter, je peux me couler à l'intérieur de ce que l'artiste nous propose, mais je peux aussi essayer d'entrer dans des tensions qui permettent peut-être à d'autres auteurs, d'autres œuvres de naître et de se développer.
Ce qu'on voit apparaître, ça n'est pas à strictement parler dans le livre « Devenir spectateur », Christian Ruby, mais ce qu'on voit apparaître, c'est un danger possible, et ça c'est en regard de toute l'histoire que vous racontez, et de tout ce déploiement de la figure du spectateur et des tentatives de manipulation des uns et des autres. C'est qu'à côté de ce « Devenir spectateur », il pourrait se profiler quelque chose qui serait très dangereux, et qui là viendrait des autorités et du politique, qui serait un « devoir spectateur ». Ce qui serait assez grave, parce que ça veut dire que le spectateur serait instrumentalisé. Et d'ailleurs, on se demande s'il ne l'est pas déjà, instrumentalisé par les autorités politiques à des fins ne servant que le politique et non l'artistique. Est-ce que ça, c'est un danger pour vous, Christian Ruby?
Je pense que c'est un danger, et c'est un danger qui en plus se traduit dans des mœurs culturelles et dans des intermédiations de type culturel. C'est-à-dire que c'est pas forcément directement le politique qui dit ceci ou cela, mais il y a tout un ensemble de médiations qui peuvent y conduire. La difficulté, c'est justement de ne pas respecter assez le devenir spectateur comme exercice et comme trajectoire. Et par conséquent, d'avoir inventé des écoles du spectateur qui sont très modélisantes, d'avoir inventé des discussions du spectateur qui sont fermées, il faut absolument avoir vu ceci ou cela, etc. Ce qui implique aussi parfois, on place des cartels avant les œuvres, et en même temps, certains spectateurs ont tellement appris ce genre de choses qu'ils regardent le cartel avant de regarder l'œuvre, quand le cartel n'est pas dans l'œuvre. Ça, c'est un certain nombre d'œuvres spécifiques. Donc, on est vraiment devant des problèmes. Je connais des écoles de spectateurs dans lesquelles il y a des bulletins mensuels ou trimestriels qui sont distribués et sur lesquels il est inscrit sous forme, non pas de notation, mais de commentaire, ce qui a été, ce qui a dû être acquis par la personne qui est venue. Et je pense que c'est très dangereux. Et un type de pédagogisme, plus que de politique, mais un pédagogisme qui traduit de la politique, est extrêmement dangereux et nie finalement la plasticité qui est celle du devenir spectateur, qui est en même temps le répondant de la plasticité des œuvres.
Pour conclure, Christian Ruby, cette notion de spectateur au travail, elle a fait son temps, il est temps de passer à autre chose maintenant ?
Il est temps de comprendre que nous sommes des, entre guillemets, spectateurs multiples, que nous pouvons être spectateurs, mais que nous pouvons être activateurs, spectateurs, déambulateurs, immergés, etc. Et que cette organisation en nous-mêmes, c'est à nous de la jouer, de la faire jouer, de la rendre plastique, de la déployer pour éviter alors les scandales un peu surfaits, simplement parce qu'ils dénoncent notre éducation, pas forcément quelque chose, et en même temps nous laisser advenir à la parole que nous échangeons avec les autres, puisque c'est le moment fondamental de tout art d'exposition, que de rendre possible une parole qui est partagée, qui devient publique, aussi banalement que lorsqu'on sort du cinéma avec quelqu'un, on a envie de lui dire « tu as vu, ce film c'était bien, ça n'était pas bien, etc. » C'est le moment de la parole auquel nous conduit l'œuvre et qui devrait interdire tout acte de censure par rapport à une œuvre d'art.
Toute dernière question, Christian Ruby, qu'est-ce que ça implique, ce que vous êtes en train de dire sur la notion de public ?
Ça implique que le public, de la même manière, est, comme le dit joliment Balzac, une société fortuite. C'est-à-dire que c'est un rassemblement très contingent d'un certain nombre de personnes par rapport auxquelles l'œuvre sert de catalyseur, mais en même temps, à l'intérieur duquel, quelque chose comme la parole doit toujours être respecté et doit toujours se développer.
Tant qu'il y a des gens, il se passe quelque chose.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score.
Tant qu'il y a des gens, il se passe quelque chose. C'est le chorégraphe Jérôme Bell qui le dit et il a raison. Merci à vous, Christian Ruby, de nous avoir éclairé sur la question du spectateur. Je rappelle la parution de votre livre « Devenir spectateur, invention et mutation du public culturel » aux éditions de La Tribu, ainsi que celle, chez le même éditeur, d'un abécédaire des arts et de la culture.
Does anybody want to take it anymore? Show must go on.
pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Anthony Thomasson, Pascal Baudin, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue. Bientôt 16h sur France Culture. Restez à l'écoute. Whatever happens, I leave.